Des matins d'été politiques aujourd'hui avec cette saison des universités, cette saison aussi de la réflexion et des idées, peut-être en politique. Les Républicains se sont réunis ce week-end à Paris pour tenter de se redéfinir après la déroute des européennes. Wauquiez partant, le parti de droite se cherche aujourd'hui un chef. Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, trois candidats déclarés à ce jour pour prendre la présidence du parti. À gauche aussi, les rencontres se multiplient. Ce week-end, c'était à la Charité-sur-Loire à l'initiative du socialiste Christian Paul et du journaliste d'Alternative économique Guillaume Duval. Ils ont tenté ensemble de faire tomber les murs et d'inventer de nouveaux horizons, tandis que La République En Marche se met-elle en ordre de marche de Paris à Lyon en vue des municipales de 2020. Alors entre décomposition et recomposition, où va la vie politique française? Où sont les partis? Deux invités avec nous ce matin, Aurélie Filippetti, bonjour.
Bonjour.
Essayiste, ancienne ministre de la Culture, auteur de Les idéaux chez Fayard à la rentrée dernière. Et Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, bonjour.
Bonjour.
Co-auteur cette année de La banalité du populisme au seuil et co-auteur de La 5e République démystifiée aux presses de Sciences Po. Martial Foucault, comment vous observez cette après-européenne? Est-ce que déjà, après la sidération, ça a mis un petit peu de temps et aujourd'hui, les partis entrent en réflexion pour se rénover après les résultats de cette élection? Ils commencent à en tirer les leçons.
Oui, c'est vrai qu'on a du mal à trouver maintenant un nouveau terme dans notre langue après recomposition, décomposition. Je dois vous dire très honnêtement, il est très compliqué de savoir dans quelle situation se trouvent ces fameux partis traditionnels qui ont jalonné l'histoire de la 5e République. Actuellement, c'est vrai que l'attention est peut-être portée sur les Républicains, consécutivement aux résultats, aux élections européennes, mais de manière générale et pas seulement en France, aussi plus... on a évoqué à l'instant les résultats en Grèce. Je dirais que ça participe peut-être de deux phénomènes qu'il est encore très difficile d'apprécier très justement. Le premier, c'est... Les partis ont été constitués tout au long du XXe siècle, des partis de masse, c'est l'expression qu'employait un politiste italien, Michels, et qui dit finalement on a observé une évolution de partis de masse à partis de classe. Et quand on pense à partis de classe, il faut bien voir qu'au-delà de la situation politique, c'est aussi l'ensemble de ces corps intermédiaires. C'est vrai, des syndicats, beaucoup de partis politiques ont eu une imbrication forte avec les syndicats. Et aujourd'hui, on voit que l'ensemble de ces mouvements de mobilisation, que ce soit dans l'arène politique, l'arène syndicale, ont beaucoup de difficultés à appréhender, à transformer une demande sociale et en programme politique ou en offre politique. Et d'une certaine manière, le comportement des électeurs est également très difficile à saisir. On voit qu'il y a de plus en plus de volatilité, une mobilité. Avant, c'était au sein des familles politiques, au sein gauche, droite. Maintenant, il y a des mouvements qui vont d'une famille à l'autre. Donc, la situation en France, certainement, qui a une recomposition, mais une recomposition sur quelle recomposition politique, sur quel terrain d'analyse? Moi, je vois deux éléments qui nous ont peut-être qu'on a oublié au cours des décennies précédentes. On avait coutume de dire la sociologie électorale, c'est très simple. Donnez-moi votre âge, votre genre, votre position sociale, votre classe sociale, socio-professionnelle.
Et je vous dirai pour qui.
Et votre religion, qui est très importante en France, et je vous dirai pour qui vous seriez susceptible de voter. Aujourd'hui, tout cela a un petit peu volé en éclats. Et ça, c'est des dimensions très objectives. Il y a un autre élément pour moi qui est très important et qui est valable en France, en Europe, et on l'a même constaté aux États-Unis, c'est une dimension beaucoup plus subjective qui relève... Alors parfois, on a parlé du ressentiment. Le ressentiment, je ne sais pas toujours exactement comment on peut l'appréhender, mais ces dimensions subjectives, je vois deux, pour moi, deux dimensions importantes. La première, c'est ce qu'on appelle la confiance interpersonnelle, c'est-à-dire la confiance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses proches, de sa famille, son entourage professionnel, ses voisins. Et puis une deuxième dimension qui relève davantage, je dirais, du bien-être ou du mal-être. Et ce qui nous avait permis en 2017, avec un certain nombre de collègues, d'observer que cette polémique autour du comportement des électeurs du Rassemblement National, où on a coutume de dire le Front National à l'époque et le Parti des Ouvriers, c'est pas cela. Le Front National est avant tout le parti des classes malheureuses. Et pour apprécier cette notion de ce que veut dire malheureuse, il faut y ajouter des éléments très subjectifs. Et en 2017, et c'est valable en Allemagne avec la montée de l'AFD, c'est vrai aussi aux États-Unis après les élections de 2016, quand on croise la dimension de mal-être personnel et la dimension de défiance vis-à-vis d'autrui, alors on comprend qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui aujourd'hui ne se retrouvent plus dans les familles politiques traditionnelles.
Voilà, le constat pour l'instant, c'est après celui de la gauche, quand même celui du siphonnage de la droite par La République En Marche aux européennes. Aurélie Filippetti, après avoir été actrice, vous êtes aujourd'hui plutôt observatrice aussi de ce milieu, de ces évolutions. L'époque n'en est pas moins passionnante parce qu'est en train de se jouer masse ou classe, nous disait à l'instant Martial Foucault. Quelle nouvelle écriture à la fois de l'histoire de la gauche et de la droite est en train de se jouer pour vous aujourd'hui?
Alors je pense que ce sont évidemment deux situations différentes, même si au fond le résultat est le même, c'est-à-dire une explosion des partis de gauche et de droite traditionnels et républicaines, c'est-à-dire en fait ceux qui dont on considérait qu'ils avaient vocation à gouverner plus ou moins en alternance. Et pour des raisons différentes, en fait, la droite vient d'exploser aux élections européennes, tout simplement parce qu'au fond, le président Macron a siphonné son électorat. Mais il a siphonné son électorat en faisant la politique au fond que souhaitait cet électorat. Et donc, il n'y a plus de raison pour un électorat de droite traditionnel de ne pas voter pour les listes soutenues par le président de la République. Pour la gauche, c'est différent, on vient de le voir avec Syriza en Grèce. Au fond, la gauche perd toute crédibilité quant aux responsabilités, elle ne mène pas la politique pour laquelle les gens l'ont élue. On est dans un moment historique de creusement abyssal des inégalités économiques, financières, de capital culturel aussi. Enfin, c'est ça l'enjeu numéro un. Et si la gauche au pouvoir n'a pas comme priorité, au fond, de réduire ces inégalités, eh bien, et les électeurs qui normalement se portent vers elle, la désavouent aux élections suivantes. Et c'est assez, c'est assez logique.
Ça, c'est pas nouveau, ce système d'alternance.
Sauf que, là, pour le coup, en France, on voit que, eh bien, avec En Marche, Emmanuel Macron a créé un mouvement, plutôt qu'un parti, autour de sa personne, mais au fond, avec une politique, avec une idéologie derrière, qui est assez classique et conservatrice. Il y a rien de nouveau là-dedans, et pas non plus de grande nouveauté dans, au fond, le fait que quelque chose incarné par quelqu'un de jeune, de dynamique, et qui dit finalement je vais faire table rase du passé, suscite cet intérêt. Mais ce qui est assez nouveau, je pense, dans l'époque et qui dépasse les frontières de la France, c'est que ça correspond à une crise de la représentation politique beaucoup plus générale, qui est aussi valable en Europe et aux États-Unis. On le voit, on est dans un moment où au fond les modes de communication se concentrent tellement sur la violence du clash, comme le dirait Christian Salmon dans son dernier essai, l'ère du clash, qu'en fait, il faut avoir une communication extrêmement violente pour pouvoir passer la rampe, au fond. Et un discours rationnel, argumenté, est très difficilement audible dans l'espace public de la communication politique.
On voit quand même des formations particulièrement déboussolées en ce moment, ou en train de tenter de se repositionner, étonnant ce week-end encore, cette tribune d'une cinquantaine de parlementaires républicains qui s'opposent dans Le Parisien à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, qualifié d'erreur économique et d'horreur écologique, des républicains vent debout contre le libre-échange. Il y a de plus en plus de correspondances comme ça entre les programmes et les prises de position de socialistes ou de républicains. Qui sommes-nous? Il fallait quand même peut-être cette convention ce week-end pour tenter de répondre à cette question à droite et établir une charte de valeurs. Ni La République En Marche, ni le Rassemblement National, ils ont en tout cas tenté la synthèse. On l'écoute dans la voix de Christian Jacob, candidat à la présidence des Républicains.
Depuis 7 ans, on a perdu 2 présidentielles, 2 législatives et un résultat très mauvais aux élections européennes. Je pense qu'il y a besoin de rassembler notre famille politique. Un certain nombre de nos amis l'ont quitté. Ce travail aujourd'hui, j'y vais pour cela parce que je pense être celui qui sans doute a peut-être le plus cette capacité à la fois de rassemblement, de réorganisation et de faire travailler les gens ensemble. C'est ce que nous avons fait au groupe parlementaire et tout le monde reconnaît plutôt l'action qui a été la mienne dans ce cadre-là. Et c'est cela que je veux faire. Donc moi je pense que l'on peut tout à fait avancer sur les deux pieds, rassurer, renouveler et porter des idées nouvelles. Et c'est le défi que nous avons à remplir sur l'année qui vient.
Bon, les idées nouvelles, Marcel Foucault, quand on entend ce week-end libérer le travail, l'ordre, l'autorité, peut-être si la conscience de l'urgence écologique, c'est un retour aux fondamentaux ou
Je crois que ce n'est pas un retour aux fondamentaux, en tout cas pour une famille politique de la droite. On voit qu'il y a une sorte de glissement sur le terrain des valeurs politiques, parce que quand même depuis au moins depuis 1958, dans le paysage politique, un électeur sait parfaitement faire la différence. On a beaucoup parlé de la fin du clivage gauche-droite. Un électeur savait, et je crois sait encore, faire la différence entre un parti de gauche et un parti de droite. Pour un parti de droite, c'est très très simple. C'est à la fois des valeurs liées à l'autorité, à l'ordre, à la famille, et une forme de libéralisme économique. Et 2017, c'est pas si loin. Il y a à peine 2 ans, le candidat François Fillon était sur ce sillon, avec des valeurs très libérales sur le plan économique, moins d'intervention de l'État, une réduction des dépenses publiques, et puis sur un terrain plus culturel, une vraie forme de conservatisme comparativement à d'autres de ses concurrents. Donc aujourd'hui, en entendant Christian Jacob, je découvre qu'il y a quand même une sorte de chamboule-tout par rapport à ce qu'a été l'ADN politique de la droite. Alors évidemment, ça pose une grande difficulté. C'est aujourd'hui, avec une baisse aussi forte d'électeurs, les Républicains, forcément, ça peut obliger à réorienter l'appareil idéologique de ce parti. Mais dans quelle direction? On voit qu'il y a un espace politique, comme Aurélie Filippetti le rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire que le président de la République a d'une certaine manière élargi son espace politique et au centre-droit, et même peut-être d'une certaine manière à droite. Quand on regarde attentivement les résultats des élections européennes dans un certain nombre de communes de France, on voit que la progression, ce n'est pas quelques points, parfois ça a doublé. Je pense à des villes, bien sûr, on a beaucoup parlé de Neuilly-sur-Seine, mais c'est vrai aussi Marcq-en-Barœul dans le Nord. Donc ce sont des communes qui n'avaient jusqu'alors aucune raison d'abandonner la droite. Donc il y a bien eu un déplacement dans l'esprit des électeurs, un déplacement de la crédibilité d'un parti d'incarner ce qu'ils attendent de la droite. Et je crois me souvenir d'une citation d'un ancien responsable de la droite en disant: mais finalement ce gouvernement Philippe et le président de la République font ce que la droite a toujours cherché à faire. Donc ça illustre d'une certaine manière le désarroi de cet électorat à droite. Et donc cela va prendre beaucoup de mois et beaucoup d'années dans une 5e République qui est quand même aujourd'hui fortement orienté autour de l'élection présidentielle. Alors on pourrait se dire, c'est dans 2 ans et demi probablement que ce travail sera mené. Mais c'est là, moi, j'ai une vraie inquiétude. On voit que, et c'est pas simplement à droite, dans l'ensemble des formations politiques, la très très grande difficulté d'animer un débat d'idées au sein des formations, parce que le nombre d'adhérents, le nombre de militants, et je dis pas simplement sympathisants, le nombre des personnes qui sont d'une certaine manière liées à une formation politique, ce nombre est en baisse. Donc faire vivre le débat d'idées dans une formation politique pour se préparer aux prochaines échéances électorales est devenu chose très compliquée aujourd'hui en France.
Mais il devrait pouvoir s'appuyer quand même aussi sur des think tanks, sur des boîtes à outils, d'idées. Est-ce que c'est d'ailleurs reparti de cela, ce recentrage ou cette tentative de se rassurer autour de certaines valeurs fondamentales, ce qui s'est joué ce week-end?
Oui, enfin il y a un certain nombre, effectivement, un certain nombre d'officines, de think tanks qui peuvent peut-être contribuer, mais encore faut-il que cette production d'idées soit reprise à bon compte par les responsables politiques. Or, il me semble aujourd'hui, en observant peut-être de trop loin la situation pour les Républicains, il n'y a pas du tout de consensus au sein des leaders de cette famille politique. On voit bien que les positions sont rendues complexes. par à la fois des effets de stratégie électorale. Est-ce qu'il faut se déplacer un peu plus à droite et se dire, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2007, essayer de convaincre les électeurs qui s'étaient déplacés vers le Front National de les séduire et de leur dire il y a un parti de droite qui incarne toutes ces valeurs, ou bien est-ce qu'il faut, pour aujourd'hui les Républicains, se déplacer sur le centre et donc entrer en concurrence directe avec Emmanuel Macron ?
Oui, d'autant qu'il y a des droites plurielles. Quel est pour vous, Aurélie Philippetti, le meilleur ennemi de la droite aujourd'hui ?
Mais le meilleur ennemi de la droite, ça a toujours été la droite elle-même, de toute façon, et ses propres divisions, mais comme la gauche d'ailleurs. Mais au fond, c'est assez normal. Et bien, il y a toujours eu un courant à droite, qu'on peut appeler gaulliste, au fond, qui cherchait un contact, qui cherchait un support au sein de certaines classes populaires. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, que la droite doit retrouver si elle veut reconquérir, au fond, certains bastions perdus.
Et qu'elle a abandonné à qui ?
Ben, pour l'instant, qu'elle a abandonné, il faut bien le dire, au Rassemblement National, enfin en tout cas à l'extrême droite. Et pourquoi ? Parce que avec la ligne, en gros, Patrick Buisson, la droite s'est focalisée sur des questions, les questions d'immigration, les questions d'identité. Or, et ça c'est une bonne nouvelle, je dirais, pour nous tous collectivement, cette stratégie-là a été perdante. Donc, quand j'entends là certains parlementaires de droite se mobiliser, par exemple, contre le libre-échange avec le Mercosur, je me dis que ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'au fond, ils retrouvent une tradition gaulliste, de souveraineté nationale ou européenne d'ailleurs, et que peut-être par là, ils peuvent tenter de se positionner différemment de La République En Marche, mais aussi en prenant des distances avec le Rassemblement National. Et du côté de la gauche, je pense de la même manière que l'enjeu fondamental, c'est de retrouver l'électorat populaire, sans lequel il ne peut pas y avoir de victoire de la gauche, d'alternance à gauche. Et donc, comme les prochains mois ou années devront être ceux de l'écologie politique et au fond de la manière dont l'écologie devient un moteur pour la gauche, la question va être de savoir comment au fond on montre que l'écologie est fondamentalement incompatible avec le néolibéralisme triomphant, avec ce libre-échange qui détruit la planète. C'est ce qu'a dit très, très, très justement Nicolas Hulot à propos du Mercosur. Il a dit, au fond, ces traités de libre-échange sont ce qui provoque la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes plongés.
Alors, c'est de montrer cette incompatibilité pour la gauche, mais la deuxième étape, c'est de montrer aussi la compatibilité entre ce programme écologique, la transition écologique et la justice sociale. Alors, pour la gauche, ça se jouait en partie ce week-end à la Charité sur Loire, où se tenait le premier festival des idées, où est notamment intervenu Yannick Jadot, le leader d'Europe Écologie Les Verts.
Moi, je suis écologiste, donc ce que je veux, c'est construire le grand pôle écolo dans ce pays qui rassemblera très largement, issus de toutes les formations politiques, mais surtout issus de la société.
Voilà, alors justice sociale et climatique, comment se ranger derrière cette double thématique ? Quelle est leur vision à tous de cette écologie sociale et politique ? On se souvient du philosophe Frédéric Worms sur notre antenne au début du mouvement des Gilets jaunes qui estimait que le social devait venir avant l'écologie et non après, qu'il fallait d'abord réconcilier les hommes pour leur permettre de se réconcilier avec la planète. Aurélie Philippetti.
Je pense que c'est vraiment deux mouvements qui vont de pair, enfin ce sont les deux faces de la même médaille. Si nous sommes dans cette situation où, au fond, il y a une prédation des ressources naturelles et une captation par une toute petite minorité des ressources naturelles de la planète, ce sont aussi les mêmes mécanismes de prédation et de captation qui ont creusé les inégalités et qui jettent des millions de personnes dans la pauvreté à l'échelle mondiale. Donc, pour retrouver justement un mode de production des biens et des richesses qui soit soutenable à l'échelle de la planète, il faut aussi que cela recrée de l'emploi localement et que cela permettent aux gens de survivre. Évidemment, en matière agricole, c'est pas tant, c'est-à-dire que si on développe des cultures vivrières localement, c'est non seulement bon pour la planète, mais aussi bon pour les paysans et les populations locales, mais c'est aussi valable en matière industrielle. Et là, les consommateurs, les citoyens en tant que consommateurs ont aussi une responsabilité, bien sûr, et donc des capacités d'action. Parce que quand on voit la différence, par exemple, entre ce que produisent les Américains collectivement, c'est-à-dire 10 fois plus de pollution à l'échelle de la planète qu'un Européen qui produit lui-même 5 fois plus qu'un Indien, par exemple. On voit bien que cette question des inégalités, elle est aussi au cœur de la question du traitement de la crise écologique.
Marcel Foucault, en un mot, là on a quand même un point de jonction, on l'entendait à la fois aussi dans l'appel de Yannick Jadot aux formations citoyennes, même main tendue par Clémentine Autain qui lance son Big Bang écologiste et qui veut fédérer diverses organisations citoyennes autour de cette barque commune qu'elle est en train de lancer.
Non, il est vrai qu'il y a différentes manières d'apprécier, de comprendre et je dirais presque de mettre en scène politique la demande écologique. Pour moi, au cœur de cette mutation, c'est vraiment la question économique. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a, d'une certaine manière, associé les mouvements verts à des questions seulement environnementales. Or, aujourd'hui, se pose une vraie question, pour moi, qui est la plus sérieuse et la plus fondamentale, qui est, est-ce que le capitalisme peut survivre aujourd'hui à cette création presque sans fin de richesses, sans tenir compte d'une dimension environnementale, de répartition certes des richesses et des ressources naturelles. Donc pour moi, c'est un mouvement presque contradictoire avec ce capitalisme du XXe siècle.
Voilà, des questions qui se posent aussi au niveau municipal, local et européen. On en reparle avec vous deux dans une quinzaine de minutes. Aurélie Filippetti, essayiste, et Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, sont nos invités jusqu'à 8h30.
France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Quelle recomposition politique au lendemain des européennes et un an avant les municipales. On en parle depuis 7h40 avec nos deux invités, Aurélie Filippetti, essayiste et ancienne ministre de la Culture, et Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, co-auteur cette année, entre autres, de La banalité du populisme et de la Ve République démystifiée. Martial Foucault, le CEVIPOF que vous dirigez, qui vient de présenter une nouvelle étude qui montre que l'échelon local reste important pour les Français à moins d'un an ou à un an de la campagne municipale. Ça rassurera sûrement les maires qui souhaitent se représenter ou ceux qui veulent s'engager aujourd'hui en politique. Qu'est-ce que montre plus précisément cette étude que vous avez réalisée sur la place de la figure du maire dans l'esprit des Français aujourd'hui?
Oui, en fait, c'est une enquête publiée ce matin qui fait écho à un travail que nous avions mené en novembre dernier où nous avions interrogé l'ensemble des maires. Et on s'était aperçu à la fois une forme de résignation et pour beaucoup, au-delà de la résignation, une absence de réponse dans leur capacité à vouloir faire mieux, faire plus. Et un maire sur deux nous avait indiqué vouloir jeter l'éponge pour les prochaines élections municipales. Cette fois-ci, on a interrogé plus de 15 000 Français pour lesquels on s'est attaché à comprendre à la fois comment eux perçoivent le rôle de maire, qu'est-ce que le maire fait à leur quotidien. Et il ressort pour moi deux enseignements très intéressants. Il y a une forme de contradiction entre un maire sur deux qui souhaite abandonner et plus de 80% des Français interrogés qui sont très satisfaits du bilan de l'action municipale, des équipes municipales. Et 60% d'entre eux souhaitent que leur maire soit candidat à la prochaine élection municipale. Je dirais que ces deux enquêtes ont eu lieu à des moments très précis, novembre et juin. Entre-temps, il s'est passé quelque chose d'important dans ce pays, qui est la crise gilets jaunes et au-delà, et aussi des élections européennes. Ce qui veut dire que le local, ça ce n'est pas nouveau, compte beaucoup dans la façon de faire fonctionner une démocratie. Et c'est vrai que probablement que ce gouvernement depuis 2017 n'avait pas jugé bon d'associer plus étroitement l'ensemble des maires et l'ensemble des conseillers municipaux, parce qu'on parle beaucoup des maires. Moi j'ai été frappé de voir que de plus en plus de conseillers municipaux aujourd'hui abandonnent d'une certaine manière leur responsabilité, et ça pose une question toute simple qui est aujourd'hui le statut de maire doit être, j'allais dire, en urgence rediscuté. C'est pas une question seulement d'indemnité, mais c'est une question aussi de statut juridique, les risques pénaux, les risques juridiques qui sont pris par les maires posent beaucoup de difficultés pour poursuivre cet engagement.
C'est le retour pour vous deux des maires dans la vie politique directement au premier plan après avoir été, comme vous l'évoquiez, Martial Foucault, mis de côté, en tout cas par le nouveau président.
C'est le retour des maires dans ce jeu politique ou c'est aussi une réponse aux demandes de démocratie directe qu'on a vu largement émerger lors du mouvement des Gilets jaunes, la démocratie locale, à défaut de la démocratie directe. Aurélie Filippetti, je rappelle que vous avez vous-même été...
J'ai pas été maire, mais j'étais
conseillère municipale et candidate, c'était en 2001, dans le 5e à Paris, contre Tibéri.
Et en 2014, à Metz. Et donc, je connais la démocratie locale et sa vitalité, notamment à l'échelon municipal. Ce que je dois dire, c'est que la crise de la représentation politique, elle ne touche pas les élus municipaux. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, autant les Français se défient finalement de toutes les strates de la représentation politique, mais en revanche, ils ont confiance dans leur maire et dans leurs équipes municipales. Et ça, ça entre en contradiction malheureusement avec effectivement deux constats. C'est d'abord Emmanuel Macron, président de la République, a fait une erreur, et je crois qu'il commence à s'en rendre compte, en méprisant l'échelon local et les collectivités territoriales depuis le début de son mandat. La crise des Gilets jaunes est venue le lui rappeler. Mais il faut voir aussi que les maires sont confrontés à un autre problème majeur, c'est que depuis la création des intercommunalités, aujourd'hui, en fait, les maires sont ceux à qui les électeurs s'adressent, ceux que les électeurs finalement considèrent comme leurs interlocuteurs, mais les maires eux-mêmes ont perdu beaucoup de compétences au profit des intercommunalités qui, elles, pose un vrai problème démocratique, c'est-à-dire qu'en fait, les responsables des intercommunalités ne sont pas élus au suffrage universel direct. Ce sont des élus indirects, c'est-à-dire que ce sont les différents maires et conseils municipaux qui élisent les responsables des intercommunalités. Donc ça met les maires dans une situation extrêmement inconfortable, c'est que à la fois, ils ont beaucoup de comptes à rendre à leurs électeurs, et en même temps, ils sont dépossédés d'une partie de leurs compétences. Et ça, il faut absolument qu'on approfondisse cette question de la démocratie dans les intercommunalités, parce que c'est absolument insatisfaisant aujourd'hui. D'ailleurs, il y a aussi, par exemple, un problème de représentation des femmes au sein des intercommunalités qui est tout à fait patent et qui est le symptôme d'une insuffisance de la démocratie dans ces lieux qui sont aujourd'hui des lieux qui ont énormément de pouvoir et en fait l'essentiel des pouvoirs à l'échelon local.
Marcel Foucault.
Oui, non, c'est juste parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'une crise de la démocratie représentative en France. Je crois qu'au fond, c'est davantage une crise des pratiques de cette démocratie représentative. Et effectivement, les structures intercommunales depuis maintenant 2010, où certaines communes et certains maires se sont retrouvés un petit peu forcés de rejoindre des structures avec des préfets qui leur demandaient de rejoindre des structures à 60, 70 communes. Donc, un maire dans une structure de la sorte ne s'y retrouve pas et lui-même se dit « mais moi je ne suis pas simplement un officier de l'état civil, je ne suis pas simplement maire pour les mariages et délivrer, j'allais dire, des cartes d'identité ». Donc, cette question de la démocratie municipale, pour moi, elle est fondamentale parce que elle a illustré notamment pendant la période du grand débat national qu'un certain nombre de maires, d'ailleurs sans forcément être proches du pouvoir présidentiel, répondait à une demande de discussion, ouvrir des espaces de discussion.
Pour s'en faire le porte-voix ensuite, les porte-voix
oui.
aussi. Hein. Moi, il y a eu comme des cahiers de doléances qui ont été portés par les maires.
Moi j'ai été frappé pour avoir suivi vraiment des dizaines de réunions d'initiatives locales, observé des citoyens qui n'avaient pas l'habitude, des citoyens peu politisés, pas l'habitude de prendre part à des réunions publiques, demander, solliciter auprès du maire l'idée de poursuivre ces échanges. Pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais d'avoir des moments de discussion et je dirais pour recréer aussi un point qui est essentiel, parce que ça me semble être la contrepartie de la manière de faire vivre la démocratie locale, d'avoir des espaces de socialisation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on dirait plus c'est local, plus les gens se connaissent et plus les gens interagissent. Non, pas nécessairement. Et le maire est, je dirais, cette courroie, une sorte de fantassin de la démocratie municipale.
Oui, c'est étonnant comme on en revient aussi à des formules plus traditionnelles, alors qu'on parle aujourd'hui d'une politique qui se ferait autrement, en dehors du cadre partisan. Partisans, en fait, des figures comme celles des maires ou des conseillers municipaux reprennent vie dans un pays qui est loin d'être dépolitisé. Hein, Aurélie Filippetti, c'est c'est une forme d'expression politique aussi que de s'appuyer sur cet échelon-là.
Oui, mais parce qu'au fond, c'est à l'échelle locale que s'inventent beaucoup de choses. Dans les pratiques démocratiques, par exemple, et aussi, prenons l'exemple de l'écologie, il n'y aura pas de réussite d'une vraie politique écologique sans une politique extrêmement local. Il y a un maire que j'aime citer en exemple, parce qu'en plus il vient d'être élu député européen sur la liste écologiste, c'est Damien Carême, qui est maire de Grande-Synthe, qui a eu une politique à la fois extrêmement social et extrêmement écologique dans sa ville, qui aussi a une politique d'accueil des migrants, des réfugiés qui étaient sur son territoire et qui, ma foi, a été réélu d'une manière exemplaire, indépendamment, disons, de son appartenance partisane. Et c'est un bon exemple. Il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de transformation de nos politiques écologiques si ça ne passe pas à l'échelon local. De la même manière, les pratiques démocratiques, on le voit avec les conseils de quartier, on le voit dans le cadre de tout ce qui peut être inventé localement pour faire participer davantage les citoyens à la prise de décision, à la gestion de leur budget, etc. Ça passe par l'échelon local.
Martial Foucault, en un mot, 75% des Français, dit cette étude du CVPOF, jugent plutôt favorablement les équipes sortantes, pas de dégagisme en perspective. Est-ce que, pour autant, et on voit à Paris le rapport de force qui est en train de se mettre en place, avec notamment des candidats LREM qui ne manquent pas, un ticket Majoubi-Villani qui est en train de se confirmer, Benjamin Griveaux aussi, une investiture qui sera connue le 10 juillet pour ce candidat. Est-ce que vous pensez que ce duopole LREM-RN qu'on a vu aux dernières élections nationales et européennes, va s'installer aussi à l'échelon municipal lors de la prochaine élection.
La difficulté pour La République En Marche aujourd'hui, c'est probablement de pouvoir s'installer sur l'ensemble du territoire. Donc, d'une manière assez symbolique, la stratégie va consister à viser ces grandes villes, et non pas des communes moyennes, mais des grandes villes pour lesquelles ce parti ou ce mouvement part d'aucun élu. Donc, à Paris, précisément, je dirais que on a vu quand même, après les élections présidentielles européennes, une transformation de la sociologie électorale à Paris. Je crois qu'il serait faux de considérer qu'il y aurait eu une conversion totale des électeurs parisiens de l'Ouest, électeurs de droite traditionnels, vers La République En Marche, et que cela entraînerait automatiquement un vote pour le candidat qui sera investi ou pas par La République En Marche pour la bataille municipale à Paris.
Voilà, vous hésitiez sur les thèmes décomposition, recomposition, on va peut-être garder conversion, reconversion pour finir cette discussion. Ce seront peut-être les mots de demain. Merci beaucoup à vous Aurélie Filippetti. Merci Martial Foucault.